Louer et remercier soit le Seigneur. Nous sommes si reconnaissants de pouvoir nous retrouver dans cette parole. Et nous entendons toujours de la bouche de frère Branham que l'Église épouse sera une épouse parole. Et cette épouse parole se trouve quelque part, est à trouver quelque part dans la parole. Elle ne fait qu'un avec l'époux et n'a qu'un seul désir, celui d'être plus intimement unis à lui et d'être également unis les uns aux autres dans son amour. Nous avons entendu des paroles magnifiques, merveilleuses. Et c'est ma particularité de m'imprégner de chaque parole. Dans le prophète Malachie, nous avons entendu que pour ceux qui craignent le Seigneur, le soleil de la justice se lèvera avec le salut sous ses ailes. Pas avec le malheur, mais avec le salut, avec la bénédiction, avec la grâce, avec la miséricorde, avec le salut, avec la guérison, avec tout ce qui s'y rapporte. Partout où le Seigneur se révèle réellement, il se produit ce qui s'est passé lorsqu'il marchait ici-bas. Et que s'est-il passé? Il a sauvé, il a guéri, il a libéré, il a béni. Il a pris soin de ceux qui étaient exclus et rejetés par d'autres et s'est tourné vers eux. Et dans cette parole, dans Hébreux 6, nous avons lu au verset 10, Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. » Donc, si il n'y avait que le travail, nous pourrions l'oublier, et lui aussi. Mais il n'y a pas que le travail. C'est du travail et de l'amour. C'est un travail qui se fait dans le royaume de Dieu, dans l'amour de Dieu, pour la bénédiction et le salut du peuple de Dieu. Ce que Dieu a fait, c'était son amour manifesté. Et Golgotha est l'amour de Dieu manifesté à toi et à moi, révélé à toi et à moi, et à nous tous. Et un auteur de cantique chante, ô amour de Dieu, si libre et si pur, de tout temps et toujours nouveau. Et il est dit ici, Hébreux 6, verset 10, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Donc, votre travail et votre amour. Un travail dans le royaume de Dieu qui n'est pas intégré dans l'amour de Dieu n'apportera aucune bénédiction. Il sera lié à des choses qu'on s'attribue à soi-même et n'atteindra pas le but qui doit être atteint. Tout travail effectué dans le royaume de Dieu doit être fait dans l'amour de Dieu. Et s'il est fait dans l'amour de Dieu, on ne peut pas se l'attribuer. C'est ce que vous avez fait pour son nom. Donc, l'amour que vous avez montré pour son nom en rendant et en rendant encore des services aux saints. Oui, les saints, ceux qui sont aimés en Christ, ceux qui ont été appelés, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui sont élus, ceux-là ont été servis ou ont été, oui, servis dans l'amour. Donc, c'est à eux que ce service a été fait. Tous les autres passeront de toute manière à côté. Eux ne l'accepteront pas. Il est ensuite dit, au verset 11, « Mais nous souhaitons vivement que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour garder l'espérance jusqu'à la fin avec une pleine certitude. » Non seulement ceux qui sont actifs et qui travaillent dans l'amour de Dieu, dans le royaume de Dieu, pas seulement eux, mais tous doivent faire preuve du même zèle et du même amour et montrer le même amour, et ce jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour ramener les siens à la maison. Donc, pas seulement ceux qui travaillent. Et ensuite, il est dit au verset 12, « Afin que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous suiviez l'exemple de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des biens promis pour le salut. » Oui, il y a une grande nuée de témoins de ceux qui, par la foi, dans toutes les circonstances, sous le soleil et sous la pluie, dans la clarté et l'obscurité, ont simplement tenu bon parce qu'ils ont été retenus et saisis par Dieu et saisis par la parole. Vous savez, même si nous avons parfois envie d'abandonner, de lâcher prise, lui, il n'abandonne pas, il ne lâche pas prise. Il a trop fait pour nous et en nous, pour nous laisser repartir et nous laisser tomber. Non, il ne nous a pas rachetés avec des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais avec son propre sang précieux et saint, c'est le prix avec lequel toi et moi avons été rachetés. Et c'est à cause de ce prix précieux que nous sommes devenus, nous aussi, quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. C'est à cause de ce prix précieux avec lequel nous avons été rachetés que nous savons que nous sommes aussi quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Vous savez qu'un prix élevé est payé pour une chose précieuse, précieuse. Plus la chose est précieuse, plus le prix est élevé. Et ici, il n'y avait pas de prix qui pouvait être fixé avec des valeurs terrestres. Ici, il fallait payer un prix qui ne pouvait plus être compris par l'intellect humain ni mesuré par nos pensées. Il y avait là un prix qui n'avait encore jamais été payé, à savoir le sang de l'agneau. Voici à quel point toi et moi, et c'est-à-dire le sang de l'agneau de Dieu, voilà à quel point toi et moi sommes précieux aux yeux de Dieu. Et parce qu'il nous a aimés si profondément. Vous savez bien que si les gens paient des prix élevés pour certaines choses, c'est qu'ils ont un goût particulier pour quelque chose. Ils veulent avoir la chose. Ici, notre Seigneur a racheté des personnes en qui il n'y avait rien à voir extérieurement. Mais il nous a déjà vus tels que nous serons après l'achèvement et la perfection. Et nous serons changés à l'image de Jésus-Christ. Il nous a déjà vus dans cet état. Il a déjà vu la fin avant le commencement. Toi et moi pouvons faire partie de cette troupe, comme il a cette troupe qu'il a aimée et qu'il a sauvée en appelant à sortir. Moi-même, je dois encore penser à la parole d'hier soir et j'ai lu très brièvement Esdras à ce sujet. Nous avons également entendu parler par la chorale et savons que nous sommes engagés dans un combat spirituel, ou bien entendu chanter. Mais sans combat, vous savez, il n'y a pas de victoire, et sans victoire, il n'y a pas de couronne. Donc les choses ne nous sont pas rendues faciles, au contraire, elles nous sont rendues difficiles. Mais un jour, tout restera en arrière et nous irons vers le Seigneur. Comme le dit le frère Branham à la fin du film que nous avons tous vu, « Seigneur, un jour, nous viendrons à toi après que le dernier combat sera terminé et que la Bible aura été refermée et que tout aura trouvé son achèvement, nous viendrons dans ta maison. Nous nous assiérons à ta table et tu sortiras et tu sortiras comme roi. Et tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Et tu diras, ne pleure plus, ne pleurez plus, tout est fini. Oh, quel jour ce sera! Et nous aspirons à ce que cela arrive bientôt. Ici, dans Esra, chapitre 3, la deuxième partie du premier verset, les Israélites se trouvaient déjà dans leur localité. Le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Notez cette pensée. Ils se trouvaient tous dans leur localité, mais ils se sont rassemblés, ils sont venus se rassembler comme un seul homme à Jérusalem. Nous sommes tous dispersés, l'un ici, l'autre là, mais nous nous réunissons dans un seul lieu pour être édifiés. Et je vous le dis, je suis béni par chaque cantique qui est chanté, par chaque parole qui est lue, par chaque pensée qui est exprimée d'une manière ou d'une autre. Il poursuivit, Josué, fils de Jotsadak, au verset 2, donc, alors Josué, fils de Jotsadak, avec ses compagnons, les sacrificateurs, et Zorobabel avec eux, fils de Salatiel, avec ses compagnons, se mirent à rebâtir l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, comme cela était prescrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils entreprirent de relever non seulement la maison de Dieu, mais aussi l'autel de Dieu, afin d'obtenir la grâce de Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul autel et qu'un seul agneau de Dieu qui a été placé sur cet autel-là. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque nous nous réunissons, nous regardons à l'agneau sacrifié à Golgotha qui a été offert pour toi et pour moi. Ensuite, au verset 10, il est écrit, lorsque les bâtisseurs eurent posé les fondations du temple de l'Éternel, les sacrificateurs en costume d'office se mirent en place avec des trompettes et les Lévites, descendants d'Asaph, avec des cymbales pour chanter les louanges de l'Éternel selon l'ordre de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent donc en l'honneur de l'Éternel le cantique de louange et d'action de grâce, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement sur Israël. Tout le peuple poussa alors un grand cri de joie, tandis qu'on louait l'Éternel pour la pose de la première pierre du temple de l'Éternel. La première pierre. La pierre angulaire. Quelle merveille. De retour, ils se mirent au travail. La première pierre fut posée. L'autel immédiatement érigé. L'un se référait à Moïse, l'autre à David. Tout a été mis en place selon les Écritures, selon les instructions données par l'Esprit aux hommes de Dieu. Et nous pouvons dire qu'à notre époque, nous appelons en effet cela le message de la fin des temps, que tout, de Moïse à l'Apocalypse, a été récapitulé et mis à sa juste place et respecté dans la pratique. Mais nous devons aussi nous laisser mettre à la bonne place, selon les Écritures. C'est là que réside la difficulté aujourd'hui. Il y a suffisamment de gens qui pensent être des maîtres de l'écriture et des maîtres du message. Et c'est ainsi qu'ils maîtrisent le sujet, n'est-ce pas? En jouant les maîtres. Et ils peuvent, pour ainsi dire, organiser et disposer les choses selon leurs opinions. Mais ce n'est pas tout. Toi et moi, nous devons nous laisser nous-mêmes insérer, ordonner afin de trouver notre place. Il ne s'agit pas seulement de voir les mystères de Dieu dans le bon ordre et d'avoir dans le bon ordre et d'avoir saisi le développement de l'histoire du salut. Il s'agit de savoir que de même que Dieu nous a révélé sa parole et que toutes les choses ont été placées à leur juste place et à la place qui leur revient selon les Écritures. C'est ainsi que nous aussi aujourd'hui, nous devons nous aussi, par grâce, occuper la place que Dieu nous a assignée selon les Écritures. Et ce n'est qu'alors que tout fonctionnera. Si nous pouvions mettre de l'ordre dans tous les mystères, connaître tous les mystères, pour voir l'évolution de l'histoire du salut, cela ne nous suffirait à rien. Et l'achèvement ne pourrait pas avoir lieu si Dieu ne pouvait pas nous inclure lui-même, toi et moi, dans son plan, de sorte que non seulement nous mettions toutes choses en ordre, selon les Écritures, mais que nous soyons nous-mêmes aussi placés là où Dieu veut que nous soyons. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Il ne s'agit pas seulement de classer et de classer jusqu'à ce que nous ne puissions plus classer, mais de nous classer nous-mêmes et de trouver notre place selon les Écritures. Plus vite ce sera fait, plus vite Dieu accomplira par grâce ce qui reste à faire pour nous tous. Mais passons rapidement au chapitre 4 d'Esdras. Au verset 1, lorsque les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que ceux qui étaient revenus de l'exil étaient en train de bâtir un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils se rendirent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent alors, « Nous voulons bâtir avec vous ensemble, car nous adorons votre Dieu aussi comme vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azarhadon, le roi d'Assyrie, qui nous a amenés ici. » Remarquez-vous ici une chose. Ce sont les adversaires de Juda, les ennemis de ceux qui sont revenus, qui n'avaient rien à faire là, parmi le peuple de Dieu. Et lorsqu'ils apprirent que ceux qui étaient revenus, ceux qui avaient été sortis, ceux dont Dieu avait eu pitié et avait fait miséricorde, et vers qui il avait tourné sa face, quand ils ont vu que c'était mis à l'œuvre pour rebâtir le temple le temple du Seigneur, les adversaires dirent à leurs adversaires, nous allons bâtir avec vous ensemble. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça pour une proposition? Qu'est-ce que c'est ça comme proposition? Qu'est-ce que c'est que ça? Les ennemis viennent, ce sont les adversaires, et ils disent, nous allons construire avec vous. Vous savez, Dieu peut se passer de ce genre de personnes et nous pouvons tous nous en passer aussi car ils ne participent à l'édification que jusqu'à ce qu'ils puissent tirer leur propre avantage de la chose. Et puis tout à coup, tout l'édifice s'écroule parce qu'ils ont déjà utilisé leur ruse partout. J'aurais aimé que nous ayons la sagesse de Zorobabel et que nous comprenions toutes ces choses et discernions toutes ces choses aujourd'hui. Mais voilà, Dieu a permis que cela se passe ainsi. Il sait pourquoi tout cela arrive. Et il dit ici, écoutez bien le verset 1 du chapitre 4 d'Esdras. Lorsque les adversaires de Juda, vous voyez, et de Benjamin apprirent que ceux qui étaient revenus de l'exil étaient en train de bâtir un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils se rendirent auprès de Zorobabel, les adversaires, et des chefs de famille, et leur dirent, « Nous voulons bâtir ensemble avec vous, car nous adorons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis comme vous. » Il y a là une très, très grande leçon. L'un était les gens avec la promesse de Dieu qui étaient revenus de manière justifiée et qui avaient eu même reçu de Dieu la responsabilité de reconstruire la maison de Dieu. Les autres n'ont fait que se joindre à eux. Ils voulaient participer à tout ce programme et disaient simplement, « Oh, mais nous avons le même Dieu que vous. Nous aussi, nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'un tel ou d'un tel. » Cela n'est pas important. Cela n'a pas d'importance. Seuls ceux qui ont été réellement appelés, ceux qui appartiennent effectivement au peuple de Dieu, seuls ceux que Dieu a destinés à faire partie de sa maison, ce sont ceux-là qui doivent être assemblés comme des pierres vivantes. Et je pense que maintenant, en nous tous, est né un désir très profond de vivre cet amour divin, de le transmettre aux autres, de ne pas seulement être en position d'accueil, mais aussi de le distribuer et de le transmettre. Pas seulement d'être en position de le recevoir et de l'avoir, mais aussi de le distribuer et de le transmettre. Car l'œuvre de Dieu doit trouver et trouvera son achèvement dans l'amour divin. Seulement dans l'amour divin. Mais vous voyez, à l'instant où ces hommes de Dieu leur ont donné la réponse, le four était éteint. Le four était éteint. C'est alors que ces gens qui voulaient participer avec tant d'ardeur et de zèle à l'œuvre se sont directement retournés. Lisons le verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille, Esdras 4, verset 3 maintenant, chefs de famille israélites leur répondirent, « Il n'est pas question que vous et nous bâtissions ensemble un temple à notre Dieu, mais nous voulons seuls bâtir un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Que s'était-il passé ici? Aucun compromis n'a été fait ici. Cet homme n'a pas dit, « Bon, d'accord, oh, si vous le pensez, vous pouvez participer. » Non, il a dit qu'il n'était pas question que nous construisions ensemble un temple pour notre Dieu avec vous. Nous seuls voulons donner au Seigneur. Pour l'instant, cela ressemble et sonne comme si cet homme de Dieu s'était permis quelque chose, avait pris la grosse tête et avait dit, « Nous seuls, pas vous, nous seuls. » Oui, vous savez, il l'a fait entrer dans son cœur par l'Esprit de Dieu. Il a reçu cela dans son cœur par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants à Dieu d'avoir renoncé d'emblée à l'aide des adversaires. Nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il ait renoncé à l'aide de l'adversaire, car il s'est épargné beaucoup de détresse et de misère. C'est ainsi que Dieu lui a inspiré la pensée juste. Vous savez, frère Branham l'a dit, on ne peut pas entrer dans la famille de Dieu avec une adhésion. Il faut y naître réellement. Et les Israélites sont nés en tant qu'Israélites. Et les autres ont offert des sacrifices au Dieu d'Israël depuis un certain temps. Et le Dieu d'Israël n'a pas du tout regardé quand ils offraient des sacrifices, car ils ne faisaient pas partie de son peuple. Par grâce, nous pouvons faire partie du peuple de Dieu en ce moment, par une naissance. Et parce qu'il en est ainsi, nous constaterons que les difficultés qui surviennent effectivement maintenant et pas seulement là, mais à toutes les époques, Dieu les aidera à les surmonter. Lisons rapidement le chapitre 5. Chapitre 5. Esdras chapitre 5, verset 1. Agé le prophète et Zacharie le prophète, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs de Juda et de Jérusalem au nom du Dieu d'Israël, dont l'Esprit était sur eux. Oh, quelle parole merveilleuse! Dont l'Esprit était sur eux. Et l'Esprit qui était sur ses prophètes, c'est lui qui a produit, selon la parole de Dieu, tout ce qui était prévu pour ce temps-là. C'est ce qui s'est passé à cette époque, dans notre temps également. Partout où la volonté de Dieu doit être annoncée, et cela conformément à la parole de Dieu, c'est là que l'Esprit de Dieu se repose sur nous. L'Esprit de Dieu doit se reposer sur nous pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu conformément à la parole de Dieu et pas seulement sur ceux qui apportent le message, mais aussi sur tous ceux qui l'entendent et l'écoutent. Maintenant, le verset 2, Esdras 5. Alors Zorobabel, fils de Sealtiel, et Josué, fils de Josadac, se mirent à recommencer la construction de la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les deux prophètes de Dieu qui les soutenaient. Remarquons-nous ce qui se passait alors. Autrefois, le message prophétique était un soutien pour ce peuple. Ils ont reçu des instructions, ils ont reçu du courage, ils avaient une orientation, ils savaient où ils en étaient, où ils se trouvaient, et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Car chaque fois que la parole prophétique de Dieu est annoncée, les gens ont une orientation spirituelle. Là où la parole prophétique n'est pas présente, les gens n'ont pas d'orientation spirituelle. Nous lisons ensuite du verset 9. Esdras 5, verset 9. Nous avons donc posé aux anciens de là-bas la question suivante. Qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison et de restaurer ce mur? Et nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les communiquer en écrivant les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici les renseignements qu'ils nous ont donnés. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui s'élevait ici autrefois. Il y a bien des années et qu'un grand roi israélite avait construite et achevée. Vous savez, vous pouvez aussi le lire chez vous. Combien de difficultés se sont présentées lors de la construction du temple. Ces gens sont devenus leurs ennemis. Les adversaires ont fomenté toute l'histoire et la construction du temple devait être stoppée. Et cela s'est poursuivi jusqu'au plus haut niveau. Mais la main de Dieu régnait sur les siens. Il était avec eux et a déjoué tous les plans des hommes et a donné aux siens la force et la grâce de persévérer et de mener à bien l'œuvre commencée. et de l'achever. Vous savez, si nous avions commencé, nous pourrions aussi bien nous arrêter. Et alors nous aurions déjà cessé depuis longtemps. Mais parce que c'est Dieu qui a commencé, il ne peut pas lui s'arrêter. Il achèvera jusqu'au jour du retour glorieux de notre Seigneur bien-aimé qui nous a rachetés si précieux et qui nous a un grand prix donc et qui nous a aimés en nous appelant à sortir. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament s'est en effet produit en symbole et en nombre pour le développement de l'Église du Nouveau Testament. Cela a été mis par écrit pour que nous en tirions des leçons. Mais parfois, nous apprenons les leçons un peu difficilement, un peu tard, mais pas trop tard. Grâce soit rendue à notre Dieu. Non pas trop tard, mais en temps voulu. Nous pouvons, nous aussi, voir toutes ces choses à la lumière de Dieu. Et nous savons que si le Seigneur s'est engagé à tout restaurer, c'est pour que la parole que nous avons entendue dans le prophète Malachi soit suivie de la promesse. Voici que je vous envoie le prophète Élie, n'est-ce pas, c'est écrit, et c'est suivi directement de cette promesse. Tous ceux qui craignent le nom de l'Éternel mettront leur confiance en Dieu, qui se lèvera pour eux avec le salut sous son aile, et ils écouteront la voix de la parole de Dieu, le message qui nous a été donné par grâce en ce temps, avant que se lève le jour redoutable, le jour terrible de l'Éternel. Donc, tout s'imbrique et est très bien réparti dans les saintes Écritures. Parfois, les choses les plus précieuses sont les plus profondément cachées. Elles ne se trouvent pas à la surface pour que chacun puisse les gratter. Elles sont profondément cachées. Et si nous entendons encore et encore que ce qui était caché depuis la fondation du monde, Dieu l'a révélé dans ces derniers jours. Et puis il y a ceux qui disent, ah, nous avons toujours tout su. Dieu merci, je ne fais pas partie de ceux-là. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons l'accepter, que cela nous plaise ou non. Je vous le dis, celui à qui la parole de Dieu ne convient pas et qui ne la regarde pas et ne l'observe pas, ne la respecte pas, ne sera pas adapté à l'édifice de Dieu et n'y sera même pas intégré. Et celui qui pense pouvoir en retirer ce qui lui plaît ne peut pas non plus plaire à Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, de chaque parole. Et c'est justement la parole que toi et moi ne voulons pas accepter volontiers. C'est justement la parole que nous devons accepter, car c'est là que se trouve le point sensible dont nous sommes malades. Et Dieu veut que nous guérissions. Et c'est pourquoi il a envoyé sa parole, pour nous guérir. Non pas pour faire de nous des personnes quelconques qui discutent de tel ou tel, sur tel ou tel point, mais pour nous guérir au point qui nous rend malade parce qu'on n'accepte pas la parole. Et ce sont précisément ces points malades-là dont nous sommes tous atteints que Dieu a révélé pour nous rendre la santé. Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Et qu'avons-nous entendu de la part de frère Branham dans l'un des sermons? Il a dit que si quelqu'un est malade, il va chez le médecin et que celui-ci ne prescrit qu'un cachet d'aspirine. Ça veut dire qu'il ne fait que Donc, il veut se débarrasser de nous. Il nous traite ainsi. Dans ce cas, il ne s'est pas occupé de nous. Mais si il prend le pouls, contrôle le sang, s'il fait un vrai check-up, un examen, il trouve la cause. Et le traitement commence à partir de là, après avoir trouvé la cause. Et je le répète, la parole révélée de Dieu a touché l'église du Seigneur à tous les endroits où nous avons été malades. Et Dieu en connaissait la cause et où nous devons guérir. Et c'est pourquoi nous devons recevoir ce traitement, ce remède divin et tout laisser passer sur nous. Donc tout accepter. Nous laisser traiter par la parole de Dieu, sinon nous ne pouvons pas guérir. S'il n'y avait pas eu un corps malade du Seigneur, Dieu n'aurait pas du tout eu besoin d'envoyer sa parole de guérison. Ne reconnaissons-nous pas ici la fidélité? Ne reconnaissons-nous pas ici la fidélité de notre Dieu? Il dit que les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais que les malades en ont besoin. Et nous ne savons parfois même pas de quoi nous sommes malades, parce que nous n'allons pas vers le Seigneur, notre médecin, mais nous allons vers des hommes. Et Arza, c'était un homme comme ça, qui allait chez les médecins au lieu d'aller chez le Seigneur. Vous connaissez l'histoire d'Arza. Et vous savez, dans les choses spirituelles, aucun prédicateur ne peut faire de la médecine. Dans les choses spirituelles, nous devons aller chez le médecin de tous les médecins. Et c'est notre Seigneur. Et il connaissait exactement la recette qu'il devait suivre. Et il savait ce dont nous avions besoin pour guérir. Dieu n'a pas voulu nous guérir là où nous étions en bonne santé. Non, Dieu a voulu nous rencontrer là où nous étions malades, pour y appliquer le traitement et nous permettre de guérir ainsi. Le Seigneur est notre médecin, y compris sur le plan spirituel. Et il envoie sa parole pour nous rendre la santé. Mais vous savez ce qu'il en est. Quand on prend la parole dans la bouche, elle est d'abord douce. Mais quand on l'avale et qu'on la digère, oh là là, tout se crispe. Et le prophète Ézéchiel dit, après avoir avalé le rouleau du livre avec tous les soupirs et toutes les plaintes et réclamations, dans ma bouche, c'était doux, mais dans mes entrailles, c'était amer. Que s'était-il passé? Tant que la chose n'est que dans notre bouche, elle nous semble encore douce. Nous faisons qu'en parler, n'est-ce pas? Tout en pensant seulement aux autres. Mais ainsi, elle n'est pas encore dans notre cœur. Et l'effet doit venir du cœur. Et c'est quand nous l'avalons. Mais alors, c'est à ce moment-là seulement que l'effet commence réellement à se produire. Et la plupart des gens ont la parole pour ce temps seulement dans leur bouche, mais pas dans leur cœur. Et l'effet doit venir du cœur. On s'étonne parfois que le même médecin terrestre qui prescrit un médicament, un comprimé pour la tête, pour les oreilles, pour le nez, pour tous les organes, et que ce médicament, ce comprimé passe dans le même estomac et que quelque part il se disperse, on ne sait où. Et chaque médecin prescrit n'importe quel médicament et celui qui le prend là dans l'estomac, je vous le dis, le médecin céleste, lui, a prescrit beaucoup de médicaments et tous ces médicaments se concentre dans ton cœur. Et à partir de là, tout est purifié. À partir de là, tout est remis en ordre. La médecine terrestre va dans l'estomac. Et comme je l'ai dit, personne ne peut l'expliquer. Mais ce que l'un prescrit pour la main aide et l'autre pour le pied aussi. Tout semble aider, même si tout va dans le même estomac. Et savez-vous où se trouve la bonne aide? Dans la croyance que tu as que la chose t'aide et dans le fait que tu l'acceptes vraiment et que tu prennes cela. Celui qui range ses médicaments dans l'armoire ne retrouvera la santé qu'un peu plus tard, mais il s'en rendra compte à temps peut-être. Mais il en va tout autrement de la médecine spirituelle. Nous ne pouvons pas mettre quelque chose dans l'armoire et passer à côté en disant, eh bien, voyons, peut-être que ça va aussi comme ça m'aider. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous devons vraiment prendre la médecine spirituelle avec fidélité et honnêteté. sainteté selon la médecine reste. Sinon, la médecine reste dans l'armoire et nous restons aussi accroupis hors de la chaise sur laquelle nous nous sommes assis. Et cela ne doit pas arriver. Dieu a un nom, a une pommade en Galade. Il a une parole prophétique et il nous a parlé. Et je le dis pour la troisième fois, Dieu a voulu nous guérir. Il a trouvé les points sensibles. Il a commencé là où nous étions malades, spirituellement, pour nous y faire guérir. Là où nous en avions besoin. N'êtes-vous pas heureux de cela? Ne résistez pas à la médecine divine. Prenez-la et remerciez le Seigneur pour cela. Et prenez-la selon la prescription. Et elle aura son effet dans votre vie spirituelle et dans la mienne. Personne ne refusera plus. Mais parfois, je pense même aux chères sœurs, lorsque frère Branham parle si sérieusement et qu'il les prend pourtant, pour ainsi dire, à travers le manque de... on pourrait compatir, n'est-ce pas? Mais ensuite, il n'a pas fini sa phrase ici. Mais ensuite, tout à coup, je suis saisi. Tu es saisi. Nous sommes tous saisis. Mais l'avons-nous seulement remarqué? Nous pensons peut-être aux autres. Oui, ils l'ont reçu. Non, cela ne sert à rien. Tout le monde est vraiment touché. Et tout le monde est malade. Tout le corps du Seigneur. Nous aussi, nous sommes saisis et corrigés par la parole de Dieu. Et frère Branham dit dans un serment que le corps le plus malade que je connaisse sur terre est le corps de Jésus-Christ. Et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. Le corps du Seigneur est malade et les membres sont blessés. Et que s'est-il passé? Ce sont les adversaires. Les adversaires se sont mêlés et la construction n'a pas pu être achevée. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse la grâce de ne pas nous mêler de tout et que rien ne soit mélangé, mais que nous puissions vivre une construction divine et son achèvement avec quelques-uns, mais avec Dieu, plutôt qu'avec beaucoup sans Dieu. Le Seigneur connaît les siens. Je continue de croire que beaucoup retrouveront leur chemin et que le Seigneur les laissera se rétablir, donc guérir, même si cela doit passer par les profondeurs. Je ne pourrais pas imaginer que des personnes qui se sont assises pendant tant d'années sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu puissent supporter à long terme de ne pas prendre la médecine divine selon les prescriptions, à moins qu'ils ne meurent spirituellement. Eh bien, dans ce cas, personne ne peut rien y faire, mais nous avons un désir de Dieu, de la parole de Dieu. Un désir envers Dieu et envers sa parole. Et nous voulons d'autant plus nous réunir là où nous voyons le jour du Seigneur s'approcher, comme Paul l'écrit aussi dans un passage dans l'Épître aux Hébreux. Aussi souvent que nous le pouvons, nous voulons nous rassembler pour être édifiés par la grâce de Dieu. Dieu a su exactement ce dont nous avions besoin à la fin des temps. Et en tant que grand médecin, il ne nous l'a pas seulement prescrit, il nous l'a offert par grâce, il nous l'a donné par grâce. Et nous voulons l'accepter pleinement et guérir. Il a envoyé sa parole révélée. Alléluia. Sa médecine distribuée. La pommade à Gilead, la parole a encore été annoncée sous l'onction du Saint-Esprit. Et elle est une pommade sur toutes les plaies pour nous permettre de guérir par la grâce. Loué soit le nom du Seigneur. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Père Céleste, je voudrais te remercier de tout mon cœur à la fin de ce service divin pour ta parole révélée. Ô Sauveur, nous voyons ta main en toutes choses. Nous entendons ta parole révélée par ton Saint-Esprit. Elle est nourriture et réconfort. C'est un remède. Tout ce dont nous avons besoin, tu nous l'as donné par grâce. Nous voulons craindre ton nom afin que tu puisses te lever pour nous avec le salut et la guérison sous tes ailes. Seigneur, tu t'es montré si soucieux de nous. Nous te disons merci pour cela. Tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Tu as fait dire dans la dernière lettre, je te conseille d'acheter de l'or, de prendre de l'huile et d'enduire tes yeux pour que tu puisses voir. Sauveur, tu nous as rendu la vue par grâce. Ô Seigneur, fidèle, bénis avec nous ton peuple tout entier dans l'adoration. Tu connais les tiens et les tiens te connaissent. Ils entendent ta voix. Alléluia. Ô Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus écouter ta parole. Qu'ils soient richement bénis par ce lieu. Qu'ils soient richement bénis dans ce lieu et qu'ils retournent à la maison joyeux sur leur route et que nous puissions nous retrouver et nous réunir encore de nouveau dans ta bénédiction. Adoration et gloire à ton Saint-Nom de Jésus. Amen.